Bien que le Seigneur veuille bénir sa parole, que je voudrais vous apporter, non pas comme étant seulement des paroles qui sont dites et prononcées, mais où il y a l'action de l'Esprit Saint, l'action de Dieu qui se manifeste au milieu de nous par cette parole. Parce que, chers frères et sœurs, quelque chose est promis. Quelque chose est promis qui commence à manquer. Et nous venons à l'Écriture ce matin pour identifier ce manque. Et c'est pourquoi je suis revenu sur le prophète Joël. Alors un petit détail pour des questions, on peut dire, pratiques. Dans le prophète Joël, bien que nous n'allons pas aller jusque-ci, nous allons aller justement dans certaines versions, le prophète est divisé en 3 chapitres et d'autres en 4 chapitres. Tout simplement, le chapitre 2, dans certaines versions, va jusqu'au verset 32, alors que dans d'autres versions, il va jusqu'au verset 27, et les versets 27 à 32 constituent le 3e chapitre, et ensuite c'est donc le 4e chapitre. Voilà, c'est une division sur laquelle les exégètes ne sont pas tombés d'accord. Enfin, voilà, historiquement, il y a cette différence. Mais c'est le même texte, absolument les mêmes paroles du Seigneur. Alors, ce prophète commence par faire état d'un contexte qui peut nous dire quelque chose par rapport à aujourd'hui. Je vous lis les versets 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le Hazil l'a dévoré. Ce texte peut nous rendre attentifs à ce qui se produit actuellement et ce qui peut se produire dans le contexte épidémique que nous connaissons. Il s'agit en fait, d'après ce que j'ai compris, le Gazam, la sauterelle, le Gélec, le Hazil, c'est 4 variantes de la sauterelle, quoi. Le fléau majeur de l'ancien temps en Orient, c'était les invasions de sauterelles, de criquets. Et là, il y a, on peut dire en quelque sorte, 4 vagues successives du même fléau qui interviennent. Et ça laisse le pays totalement ravagé. Alors, des vagues successives qui épuisent la terre ou qui épuisent l'humanité, bien ça peut être le cas pour les vagues de corona, auxquelles s'ajouteront d'autres fléaux, ou bien tout simplement les variantes du même fléau qui se succéderont jusqu'à laisser une humanité, une société totalement exsangue, épuisée. C'est possible. C'est tout à fait possible que nous soyons entrés dans ce genre de situation où, et on l'a quand même de toute façon déjà expérimenté avec cette première vague, ce premier confinement du printemps, qu'on aurait espéré être le seul, et puis non, ça a repris, et puis il y a une deuxième, et puis on parle d'une troisième, quatrième vague, avec des variantes de ce virus qui peuvent aussi se manifester. Alors, tout à fait possible que nous soyons dans une de ces périodes. Ce qui est déclenché va-t-il mener à ce que nous voyons au chapitre 2, verset 10 ? Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Car cette première invasion, ce premier fléau des criquets, eh bien, en annonçait d'autres et quelque chose de plus grand qui allait venir. Savez-vous que selon Habacuc, l'arrivée du Seigneur est accompagnée de la peste. Donc, je cherche Habacuc, il est plus difficile à repérer, mais chapitre 3, à partir du verset 3, Dieu vient de Téman, ou Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Lorsque le Seigneur vient, il est précédé et accompagné de la peste. Par conséquent, le fléau que nous vivons actuellement peut être le prélude à la venue du Seigneur. Toutefois, les vieillards qui sont premièrement interpellés par Joël ont pu observer d'autres types de fléaux qui se sont succédés pour laisser une population moralement exsangue. La vague de la libération sexuelle et de la pornographie. La vague des rockstars dépravés. La vague du tatouage. La vague du loisir. La vague des jeux vidéo. La vague des réseaux sociaux. Et au bout du compte, l'énergie spirituelle qui s'est amenuisée, qui a quasiment disparu dans toutes les tranches d'âge. On vise souvent les jeunes, mais dans toutes les tranches d'âge. Quoi qu'il en soit, que ce soit ces vagues-là ou les vagues de coronavirus, nous sommes dans une période qui oblige les églises à se replacer en Christ face à son œuvre de salut et à trouver en lui ce qui est la bonne position devant Dieu et comment il va et il est en train de manifester son salut. Et les anciens, les vieillards peuvent raconter aux plus jeunes qu'il existait une autre société, ordonnée, obéissante, laborieuse, respectueuse, tournée vers la gloire de Dieu et non pas vers la gloire de l'homme, comme le fait absolument la société actuelle. Certes, cette société ancienne n'était pas parfaite et les gens avaient des problèmes. Mais pour ceux qui aimaient Dieu, une vie sainte était possible. On se demande aujourd'hui comment il est encore possible de vivre dans la sainteté avec la multitude d'influences mauvaises qui existent. Et certains sont livrés à leurs absences de contrôle, à leur intempérance, et ne voient rien. Alors, au verset 5, « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le moût vous est enlevé de la bouche. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, dit l'apôtre aux Éphésiens, et à nous tous. Et c'est bien à cela que va nous amener la prophétie. D'autant plus qu'une menace bien plus grande est déjà là, versets 6 et 7, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. La vigne et le figuier sont les symboles du peuple de Dieu. Et par conséquent, cela signifie qu'une menace est à l'œuvre contre le peuple de Dieu, contre ceux qui restent fidèles au Seigneur Jésus. Et au verset 9, « Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. » C'est une génération qui est épuisée, qui n'a plus de ressources pour apporter les offrandes et les libations dans la maison de l'Éternel. Il n'y a plus rien à apporter. Alors, où est la force aujourd'hui pour apporter le sacrifice de louange dont nous parle l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom du Seigneur? Mais il y a encore des sacrificateurs et des vieillards. Et ce sont eux que Dieu mobilise d'abord. Versets 13 et 14, « Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de notre Dieu, de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Les sacrificateurs et les vieillards sont mobilisés en premier lieu. Pourquoi ? Parce que le grand jour de l'Éternel arrive, le grand jour du jugement. Verset 15, « Ah, quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Et au chapitre 2, versets 1 à 6, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Comme il est facile aujourd'hui d'identifier cette armée avec ses flammes de feu, avec ses chars de combat. Alors, à ce moment-là, un appel beaucoup plus large est lancé. Versets 12 à 17 de ce chapitre 2. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Cet appel est intense, il est absolu, c'est tout le peuple. Une fois que les sacrificateurs et les vieillards se sont eux-mêmes mobilisés, c'est l'ensemble du peuple, même les nourrissons à la mamelle, j'en vois un ici, qui sont appelés, assemblés pour se tourner vers le Seigneur. Et à ce moment-là, effectivement, le renversement total intervient. Chapitre 2, versets 18 à 27. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du moût, de l'huile et vous serez rassasiés. Je ne vous laisserai plus à l'opprobre parmi les nations. Et j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa pueur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'eux, d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Rétablissement. Et maintenant, promesse, la véritable promesse, celle qui unit dans une même bénédiction les jeunes et les vieux, l'ensemble de l'Assemblée, versets 28 à 32, qui constitue le chapitre 3 pour certains. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion, et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les réchappés, le reste fidèle qui devient, donc par l'action du Saint-Esprit, en fait, les premiers sur lesquels l'Esprit est répandu et qui est en fait, vous savez, l'accomplissement que ces paroles ont eu lieu, l'accomplissement qui a eu lieu à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a pu reprendre ce passage du prophète Joël, puisque au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors au verset 14, alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Fils, filles, jeunes gens, vieillards, mobilisés, saisis par l'Esprit pour la prophétie et l'invocation universelle du nom du Seigneur. Conviction et confession qui donne et propage le salut, comme l'apôtre Paul le redira dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, versets 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La prédication de l'Évangile qui permet à chacun de confesser le nom du Seigneur et d'être sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Il y a à la fois la réception, dès la Pentecôte, il y a la réception du Saint-Esprit, il y a la glorification du nom du Seigneur, il y a ceux qui étaient présents, qui reçoivent l'Esprit et qui forment la première Église confessante, et de là la prédication universelle de la bonne nouvelle et la possibilité pour chacun de confesser pour soi-même le nom du Seigneur. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et nous sommes toujours sous ce même régime de l'Esprit, au bénéfice de la même promesse qui a été répandue d'abord l'Esprit sur le reste fidèle d'Israël, pour, à chaque fois que quelqu'un parmi les nations reçoit le message, eh bien, soit ajouté, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, jeunes gens et vieillards sont ensemble pour partager les visions et les songes reçus du Seigneur, avec les enfants qui ont donné l'exemple lorsque le Seigneur était dans le temple, était encore sur la terre, dans le temple à Jérusalem. Vous savez bien, dans Matthieu 21, versets 15 à 16, ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Les enfants conduits vers le Seigneur et qui assistent à son œuvre parmi les jeunes gens et les adultes de l'Église, sont toujours prêts à chanter les louanges de Dieu. Seul l'esprit chagrin et éteint de leurs responsables éteint aussi le chant des enfants. Mais lorsqu'autour d'eux, il y a la louange qui est à l'œuvre, les enfants se joignent naturellement et célèbrent la gloire de Dieu par leurs chants, par leur joie, par leurs exclamations. Nous avons eu un exemple parmi nous récemment. Alors, disposez-vous et apprêtez-vous à être saisis et conduits par le Saint-Esprit. Et pour cela, assemblez-vous, formez une sainte réunion, vieillards, enfants, nourrissons, que l'époux et l'épouse sortent de leur chambre, c'est-à-dire de leur vie intime, pour se joindre à la prière, et que tous deviennent ces sacrificateurs qui, en même temps, supplient le Seigneur de faire grâce et sont remplis de son Saint-Esprit pour dire les paroles reçues par Dieu. Supplier d'abord parce que régulièrement, il faut nous humilier devant Dieu, mais être assuré que nous pouvons être vivifiés et inspirés ensuite. Lorsque l'Esprit est répandu, l'œuvre se fait, la parole du salut se propage, les âmes parviennent à la connaissance et sont sauvées, sanctifiées, délivrées. La prédication du salut avec, en parallèle, un jugement. Pierre cite intégralement le passage de Joël. Il cite, donc je reprends, donc ce moment où, voilà, l'Esprit est répandu, il prophétise, mais il y a aussi, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Pierre cite intégralement jusqu'au bout, là où Jésus s'était arrêté dans sa citation du prophète Ésaïe. Je vous ai lu le chapitre 51 du prophète Ésaïe, où le Seigneur donc dit par son prophète qu'il annonce une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Eh bien, Jésus avait cité, en s'arrêtant avant le jour de vengeance, donc, au chapitre 4 de Luc, hein, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », verset 18, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, voilà, pour envoyer, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le Seigneur s'est arrêté là, il n'a pas dit « et un jour de vengeance ». Quand Pierre, lui, cite l'ensemble, alors je pense que cela signifie que Jésus est venu et quand il était sur cette terre, il était là vraiment pour manifester la grâce de Dieu. Le jugement viendra plus tard. Par contre, la venue de l'Esprit est à la fois un renouvellement et un jugement sur tout ce qui est de la chair, sur tout ce qui est du péché. En nous, le péché est jugé lorsque l'Esprit vient sur nous. Et d'ailleurs, les croyants deviennent membres de l'Église par la confession de leur péché, en admettant son jugement par Dieu en Jésus-Christ et en se faisant baptiser pour le pardon de leur péché. Par conséquent, la venue de l'Esprit est accompagnée du jugement. Et puis, viendra aussi plus tard, et Jésus le signale dans Matthieu 24, eh bien, le soleil qui va se changer en sang et tous ces phénomènes-là. Mais déjà maintenant, le jugement s'opère et le Seigneur choisit parmi ceux qu'il intègre à son corps saint, son Église, et ceux qui restent sous le jugement. Parce que si quelqu'un ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc j'ai dit en introduction que quelque chose commençait à manquer, et je viens de décrire cette chose. Je la résume en quelques mots. La communication par le Saint-Esprit. La communication intergénérationnelle par le Saint-Esprit. Les vieillards édifient les jeunes, et je rappelle que c'est d'abord à eux que s'adresse la prophétie. Et puis, comment est-ce qu'ils peuvent les édifier ? Par l'action du Saint-Esprit. Les jeunes, il ne s'agit pas seulement d'être dans la nostalgie de quelque chose d'ancien qui était meilleur que ce qui est aujourd'hui. Et les jeunes édifient les vieillards par l'inspiration du Saint-Esprit, parce que si l'Esprit est répandu sur eux, eh bien ils sont aussi à l'œuvre en communion avec les adultes et les vieillards pour leur transmettre ce qu'ils reçoivent de Dieu, pour que le Seigneur Jésus soit glorifié dans son assemblée. Et les adultes qui sont installés, l'époux et l'épouse, dans leur chambre, les adultes qui sont installés à ce moment-là se dérangent, et puis les enfants s'enthousiasment, et tous ensemble célèbrent l'œuvre de la grâce de Dieu, la puissance de la croix. Et cela se fait en étant réunis dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est là que l'Esprit a été répandu. Et c'est là que l'Esprit continue à être répandu. C'est là que le Seigneur répand sa bénédiction. Ce n'est pas chacun sur son réseau social où se diffusent toutes sortes d'informations, de nouvelles mélangées, des intérêts aussi bien profanes que spirituels. Ce n'est même pas sur ces chaînes YouTube qui diffusent la louange en permanence. Ah, je ne l'ai pas pris, mais on a reçu un bulletin de Famille Je T'aime, où il y a un témoignage de différentes expériences, de difficultés de certaines personnes. Et à un moment donné, la sœur s'exprime ainsi. Les chants de louange en boucle sur YouTube remplissaient le désert de mes prières, de ma vie de prière. Remplissez le désert de ma vie de prière. Elle confesse qu'à ce moment-là, sa vie de prière était un désert. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle se branchait, elle écoutait ses louanges en boucle. Ce n'est pas là qu'il y a la puissance de vivre dans l'esprit. Voilà, frères et sœurs, nous venons de passer une année éprouvante, et puis le Seigneur est à la porte. Alors je vous livre à nouveau le secret de Dieu. Christ, qui a donné sa vie pour nous, formera toujours son assemblée en vertu de la même grâce, répandre le Saint-Esprit, et la même puissance. C'est l'Esprit qui nous édifiera, c'est l'Esprit qui nous conduira, c'est l'Esprit qui nous conseillera. S'il n'y a pas l'action de l'Esprit, il est vain de vouloir travailler pour le Seigneur. Vous pouvez compter sur lui, vous le savez, et il vous attend, je pense, vraiment, dans le recueillement et l'intense désir de lui obéir. À ce moment-là, son nom sera à nouveau honoré, glorifié, répandu. L'évangélisation se reprendra, quel que soit le contexte. Qu'il y ait ou non des nouvelles vagues de coronavirus, ce n'est pas cela qui va empêcher l'esprit d'agir, de se répandre, d'amener des âmes à sa connaissance, au salut, parce que le Seigneur est bien plus grand que cela. Il suffit que nous nous placions ensemble devant lui, que nous nous unissions nos cœurs pour lui demander sa présence, et alors il fera ce qu'il a toujours fait pour son Église. Il répandra l'Esprit et il donnera la vie en abondance. Amen. Père Céleste, tu as annoncé ces choses bien longtemps à l'avance. Seigneur, tu as éprouvé un peuple pour qu'il soit le témoin de ta grâce dans ce peuple qui s'était égaré. Tu as envoyé ton Fils, tu l'as donné, tu as permis le sacrifice de la croix, l'offrande parfaite. Et ensuite, tu as répandu le Saint-Esprit par ton Fils glorifié sur ce peuple qui avait gardé l'attente, qui avait gardé l'espérance, qui avait gardé, Seigneur, le désir de la vie sainte. Et pour tous ceux de ce peuple qui t'attendaient, tu as été là et tu as renouvelé et tu as donné la vie nouvelle en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et tu as conduit ce peuple et tu as ajouté depuis, Seigneur, parmi toutes les nations, Seigneur, permets-nous de rester sur cette même base, sur ce même fondement de ton œuvre parfaite, l'œuvre de la croix, qui nous permet de nous repentir de nos péchés, de venir à toi, de nous assembler pour être sanctifiés par toi, pour être visités, pour être employés, pour être renouvelés, pour que ton Saint-Esprit puisse parler à travers les uns et les autres. Je te demande, Seigneur Père, la grâce que l'Esprit Saint puisse être à l'œuvre dans les vieillards comme dans les jeunes gens. Seigneur Dieu, Père, remplis-les de toi, bénis-les, Seigneur, ici au milieu de l'assemblée, Seigneur, et que chacun ainsi se réjouisse de ton œuvre parfaite et s'édifie mutuellement, Seigneur mon Dieu, et de sorte que la génération qui vient, les enfants qui évoluent au milieu de nous, Seigneur, soient saisis de joie, connaissent, Seigneur, la bénédiction, connaissent l'amour de ton nom, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent ensemble aussi chanter tes louanges, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom, louange et gloire à toi pour ce que tu feras encore au milieu de nous, Seigneur. Amen.